quatrième et dernier temps de notre semaine consacré à l'Empire byzantin et à son rapport à l'Occident chrétien, aujourd'hui le schisme d'Orient. Après avoir évoqué mardi la chute de Constantinople dans le documentaire réalisé par Anaïs Quin et Françoise Camard, documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, puis hier avoir remonté le temps en nous arrêtant sur la croisade de 1204 et la chute de Constantinople aux mains des Latins, nous remontons encore un peu plus loin dans le temps pour comprendre ce matin ce qui a provoqué la séparation religieuse entre l'Orient chrétien et l'Occident latin. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le schisme d'Orient, car ce schisme peut-il être daté, comme on le pense habituellement, à 1054, on le verra, ça n'est peut-être pas le cas, parce qu'il est difficile de lui donner une date de naissance, tant la lente dérive des deux églises s'est déroulée sur plusieurs siècles. C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin, qui a préparé toute cette semaine avec nous, et avec nos trois invités. Marie-Hélène Blanchet, elle est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Orient et Méditerranée, Monde Byzantin. Frédéric Gabriel, il est directeur de recherche au CNRS à l'École Normale Supérieure de Lyon. Ils ont tous les deux co-dirigé un livre qui s'intitule « Réduire le schisme » et nous aurons avec nous au téléphone Michel Stavrou, il est professeur de théologie dogmatique à l'Institut Saint-Serge et chercheur associé au laboratoire Orient et Méditerranée, Monde Byzantin. Bonjour à vous Anaïs Quin.
Bonjour.
Bonjour à vous Michel Stavrou, vous êtes avec nous au téléphone.
Oui.
Bonjour à vous Frédéric Gabriel.
Bonjour.
Et bonjour Marie-Hélène Blanchet.
Bonjour.
Alors, ce schisme d'Orient, je disais en ouverture qu'il n'est peut-être trop évident quand on le lit dans les livres de classe, par exemple. On a une date, c'est 1054, et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'il y a une sorte de dérive impossible à combler entre les deux églises, Orient et Occident. Or, en vous lisant tous les trois, on a l'impression que cette date est profondément réductrice et qu'il faut travailler sur une plus longue durée, Marie-Hélène Blanchet.
Oui, le schisme de 1054, ça n'est pas le premier schisme entre les églises. Il y en a eu plusieurs, même à l'époque de l'église primitive. Il y en a eu un qui est peut-être plus important encore que celui de 1054, dans les années 870-880, entre Photios, qui était patriarche de Constantinople, et le pape d'alors, Nicolas Ier, puis ensuite Jean VIII. Le schisme de 1054, c'est une excommunication réciproque entre un légat pontifical, Humbert, donc un envoyé du pape à Constantinople.
Humbert de Moyenmoutier.
Humbert de Moyenmoutier. Et le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, à cette époque-là.
On est à Sainte-Sophie et tous les deux s'envoient donc des noms d'oiseaux à la figure, d'une certaine façon.
C'est ça. Et ça ne met pas forcément en jeu les églises, c'est-à-dire, d'une part, l'église romaine du côté du légat, puisqu'il agit à titre personnel. Il n'est pas mandaté par le pape pour excommunier le patriarche de Constantinople. Et d'autre part, le patriarche agit lui aussi en son nom propre. Et de toute façon, pas du tout avec l'accord de l'empereur non plus. Donc il faut effectivement relativiser cette explosion de rage réciproque de 1054 et voir par contre que les différends entre les églises et entre les... Alors on ne peut pas parler à cette époque-là de confession, c'est-à-dire que l'église est une, c'est l'église chrétienne globale. Mais ce qu'on voit se dessiner petit à petit, dont j'ai parlé de 880 et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est justement l'émergence de deux confessions distinctes. Mmh. Et c'est tout ce processus dont on va parler, je pense.
Exactement. Anaïs Quin.
Oui, Frédéric Gabriel. Est-ce qu'on ne peut pas, en remontant un tout petit peu plus loin dans le temps, aussi trouver des raisons aussi de ces controverses internes à la religion chrétienne dans l'histoire de sa diffusion, de la singularité de ces lieux d'implantation, tout simplement ?
Vous avez absolument raison, d'autant que le terme schisme est déjà utilisé par Paul, et que Paul écrit à différentes églises grecques. Chaque église a ses spécificités, et son rôle, c'est de diffuser la bonne doctrine, la bonne discipline et la vraie foi. Donc le plus important, c'est le terme de communion. De la même communion entre différentes églises. L'église des Thessaloniciens, les autres églises, il écrit même aux Romains. Donc il n'y a pas, a priori, de spécificité locale. Mais il y a quand même une tradition, une coutume locale qui fait que chaque église, même si elle fait partie de l'église universelle, dépend évidemment d'un lieu. Et précisément, Paul met en garde contre le schisme. Le mot grec vient de là.
Et l'éloignement de la tradition de l'Église primitive à cause de ses singularités locales.
Voilà, si elles sont trop prononcées, si elles dérivent de la foi commune, de la communion précisément.
Et donc, il y a des lieux pour tenter d'apaiser ces conflits, d'unifier ces conflits. Ce sont les conciles, et c'est à propos d'un de ces conciles, Michel Stavrou, celui de Nicée, qu'il y aura déjà début de discussion et de débat sur certains aspects de la doctrine chrétienne, qui va peut-être, ce début de débat va commencer donc à empoisonner les rapports entre ce qui va devenir justement la séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, Michel Stavrou.
Oui, effectivement, le premier concile écuménique de Nicée en 325 se réunit pour contrer une hérésie, celle de Darius, selon laquelle le Christ ne serait pas fils de Dieu et Dieu, mais une créature. Mmh. Et nous avons une convergence de toutes les églises d'Occident et d'Orient pour se réunir et proclamer cette vérité de foi sur la base d'une lecture des évangiles et de la tradition ancienne. Et c'est à cette occasion que l'on voit une sorte de distribution des rôles entre les grands sièges de l'Église répartis en Orient et en Occident. Et c'est à ce propos donc qu'il y a une ecclésiologie, c'est-à-dire une vision de l'Église qui se met en place, qui s'actualise en quelque sorte, et qui va prendre sa pleine réalisation au cours du 4e et surtout du 5e siècle, jusqu'au 4e concile écuménique, en 451 à Chalcédoine, qui met en évidence qu'il y a dans la chrétienté cinq grands sièges épiscopaux, ce qu'on appelle donc la pentarchie, donc c'est-à-dire ces cinq autorités qui sont donc Rome, l'église de Rome, parce que c'est là qu'ont été martyrisés les apôtres Pierre et Paul, donc là-bas les fondateurs du christianisme également en Occident, et puis donc Constantinople, qui est la nouvelle Rome, à partir de l'établissement de Constantin en 330, et qui se développe donc comme une cité chrétienne prospère, importante. Et puis trois autres sièges anciens, Alexandrie, qui était la grande cité intellectuelle de l'Orient, Antioche et enfin Jérusalem. Alors Jérusalem en dernier, parce que comme vous le savez, Jérusalem avait été rasée par les Romains, et a été retrouvée par Constantin et par sa mère Hélène, enfin les vestiges chrétiens, seulement au IVe siècle. Donc c'est très important, si vous voulez, de souligner cette géographie ecclésiastique en faisant remarquer que vous remarquez que quatre des sièges se trouvent en Orient et un seul en Occident. Mmh. Et ça explique, la différence d'approche du mystère de l'Église, puisqu'il est considéré comme un mystère par les chrétiens, par la part occidentale et la part orientale, on remarque tout de suite qu'il n'y a qu'un siège apostolique en Occident, ce qui donne une vision de l'Église évidemment monocentrée, tandis que en Orient, on a une vision, je dirais, de la conciliarité ou de la synodalité avec une pluricité de sièges. Mmh. Et donc ça explique, je pense, déjà là, dans la configuration, la suite des problèmes.
Oui, qui vont être importants, effectivement. Anaïs Quien.
Oui, Michel Stavrou, cette question va peut-être vous paraître un petit peu naïve, mais selon vous, cette tradition de la controverse, du débat qui paraît très bien nourrir la réflexion théologique, la réflexion ecclésiologique, c'est une tradition qui dégénère en rupture ou au contraire, selon vous, c'est une rupture qui se fait par petits à-coups, par petits épisodes, et finalement cette tradition de la controverse est une illusion que j'ai moi-même sur les premiers temps de ces réflexions théologiques au sein des églises chrétiennes.
Écoutez, je ne sais pas s'il faut parler vraiment de tradition de controverse. Je pense qu'il faut parler de dialogue. Parce que dès le départ, l'Église est pensée comme un lieu de rencontre. L'Église est conçue comme un lieu de communion. Et je pense que, si vous voulez, le modèle, c'est la communion eucharistique. Mmh. Et donc, à mon sens, il est normal qu'il y ait des dialogues dans l'Église. En tout cas, vous le voyez dès le départ, dès le IIe siècle, dans les œuvres d'Irénée de Lyon en particulier. L'Église est sans cesse en dialogue avec le monde. Et la mission est conçue comme un dialogue avec le monde. Donc, qu'il y ait des controverses, ça me paraît inévitable. Mais évidemment, que ce soit des controverses à l'intérieur de l'espace de l'Église, c'est là évidemment qu'il y a un problème lorsqu'elle dégénère en schisme.
Ouais. Frédéric Gabriel.
Alors, je crois que pour abonder dans le sens de Michel Stavroux, ce qui est très important, c'est le terme de controverse, parce que pour nous, justement, ces controverses produisent de l'histoire, elles écrivent l'histoire. Et nous héritons en grande partie d'un vocabulaire et d'une formalisation de la chronologie et des événements qui sont issus de ces controverses. Et notre travail, c'est précisément de ne pas forcément croire les termes de ces controverses et de ne pas abonder dans le sens. Alors le but de notre travail et des chercheurs aujourd'hui, c'est précisément d'étudier de manière réflexive la question du schisme, parce que c'est évidemment une position de pouvoir, et la question de l'énonciation du magistère justement ecclésial est très importante, et de réfléchir de manière distanciée sur comment ça fonctionne de l'intérieur, et sans reprendre des catégories à notre compte pour décrire la situation.
Marie-Hélène Blanchet, alors, si on avance dans notre discussion, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de liste des griefs qui va petit à petit se mettre en place et qui va contribuer à figer des positions, à dire, eh bien, il y a un camp qui n'est pas le nôtre et il y a un camp qui est le nôtre, un camp orthodoxe, dit-on d'un côté, ou un camp hérétique, dit-on de l'autre, etc. Tout cela se met en place autour de quel point, quels sont les points de doctrine qui vont finir par devenir des points ennuyeux, justement, pour pouvoir continuer à faire l'union des Églises, Marie-Hélène Blanchet.
Alors justement, le terme n'a pas encore été prononcé pour l'instant, c'est le terme fondamental d'hérésie. C'est-à-dire que toutes ces controverses dont on vient de parler, qui existent depuis l'Église ancienne, elles aboutissent à la construction d'une figure antithétique du bon chrétien qui est celle de l'hérétique. Voilà. Donc, entre latin et orthodoxe, entre latin et byzantin, puisqu'on peut considérer que l'Église, les églises orientales appartiennent à l'Église byzantine jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y a un point particulièrement crucial qui est dénoncé à partir du IXe siècle par Photios, dont je parlais tout à l'heure, qui est la question du filioque. Alors là, on rentre dans les questions de théologie trinitaire.
C'est le rapport entre les trois axes, pourrait-on dire, de la croyance chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Voilà. Donc, pour les Byzantins, le Père est l'unique source de divinité, donc c'est lui qui confère la divinité au Fils et à l'Esprit. Et pour les Occidentaux, les Latins, le Fils participe. Donc c'est le Père et le Fils qui produisent l'Esprit, d'où filioque. Dans le credo a été rajouté dans l'énoncé donc du dogme chrétien en Occident a été rajouté, donc ça on sait que c'est au tout début du XIe siècle, c'est 1054.
Et c'est le point qui va devenir explosif.
C'est le point qui va devenir explosif, a été rajouté donc au credo, ces petits mots, et filioque, enfin filioque, donc qui veut dire et du Fils, donc l'idée que l'Esprit procède aussi du Fils.
Alors, on a du mal à comprendre, Michel Stavroux, ce qui, aujourd'hui évidemment, ce qui peut provoquer justement une telle colère, une telle ire de cette Église byzantine à l'ajout de ce terme-là. Mais il faut effectivement s'inscrire dans la longue histoire des débats, des controverses dont parlaient Anaïs Quin et Frédéric Gabriel tout à l'heure, des controverses qui se sont élaborées tout au long de ces premiers siècles de l'ère chrétienne, Michel Stavroux.
Oui, tout à fait, mais il faut quand même ajouter quelque chose d'important, c'est que il y a ce qu'on appelle des textes symboliques dans lesquels se reconnaît la communauté chrétienne dans sa diversité. Le texte du credo, c'est une sorte de vision synthétique de ce à quoi croient les chrétiens. Et dans cet énoncé symbolique, il se démarque justement de toutes les prises de position considérées comme erronées, ce qu'on appelle les hérésies. Donc le symbole de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire ce symbole de foi qui avait été proclamé au deuxième concile œcuménique en 381, eh bien, il reprenait l'énoncé de l'évangile de Jean, selon lequel l'Esprit-Saint procède du Père. Et c'est ce texte qui a été légèrement amendé du côté latin, donc de façon progressive et, semble-t-il, à partir du sud de la Gaule, à la fin du 5e siècle, a été ajouté sur la base des écrits de saint Augustin, du De Trinitate plus précisément, l'idée que ce n'est pas seulement le Père, mais aussi le Fils, dans la mesure où il partage son essence, qui fait procéder l'Esprit, qui donne l'existence à l'Esprit-Saint. Et donc cela a été inséré ensuite dans le credo de l'Église visigothique d'Espagne, à partir du VIe siècle, et ensuite, petit à petit, dans les États de l'Empire carolingien, à partir du début du IXe siècle. Donc il faut souligner le fait qu'au début du IXe siècle, ce sont les théologiens carolingiens qui soulignent le fait que les Grecs ne sont pas orthodoxes dans le sens clair du terme, ne sont pas conformes à la vraie foi parce qu'eux, ils ne confessent pas le filioque. Et nous avons donc une Église d'Occident qui est partagée puisque Rome refuse de prendre parti. Rome refuse de modifier le credo de Nicée-Constantinople, qui est le credo de l'ensemble de la chrétienté. Donc Rome garde son credo orthodoxe, conforme à celui du Concile, dans la version latine, mais sans filioque, alors que nous avons une église carolingienne puissante qui essaye d'imposer son filioque, entre guillemets, et qui finira par y arriver, mais très tardivement, seulement au début du XIe siècle, en 1031. Donc pour reprendre votre question, c'est un point important, parce qu'un concile écuménique, c'est un concile normatif, et le symbole, c'est un tout petit texte dans lequel se reconnaissent tous les chrétiens. Donc c'est un acte grave que de le modifier, et en bonne vision, si vous voulez, je dirais de droit canon, ne peut modifier le texte d'un credo conciliaire qu'un concile écuménique.
Exactement.
Et non pas une partie de l'Église, en l'occurrence la partie romaine.
Et Frédéric Gabriel sur ce point.
Alors précisément, ce qui est très important dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que quand la double procession est déjà attestée au 5e siècle, par exemple dans le symbole de l'évêque pasteur, ce sont des symboles qui sont en quelque sorte privés, locaux. Or, précisément, l'addition au symbole du concile de Nicée-Constantinople, tant, quand elle est acceptée pleinement, et c'est attesté du point de vue philologique au 7e siècle en Espagne, tant, justement, à avoir le même statut, puisqu'on parle de concile, et non plus de symbole de profession de foi privée, le même statut que ce premier concile de Nicée-Constantinople.
Vous voulez dire qu'on fait monter quelque chose qui est d'un statut d'une foi privée, d'une façon dont on travaille avec, on pratique sa foi, on le fait monter à un niveau général pour pouvoir l'imposer d'une certaine façon aux autres et considérer que c'est la norme, alors que ça ne l'est pas, puisque le concile ne s'est pas prononcé sur cette question-là.
Et quelque part, ça change tout. Et ce qui est très important, c'est que les Latins se sentent légitimes parce que pour eux, ils font ça, non pas parce qu'ils ont envie d'améliorer ou d'allonger le texte, mais pour lutter contre les Ariens. C'est le cas notamment en Espagne, dans l'Espagne visigothique. Donc leur argument, c'est de dire « nous luttons contre l'hérésie ». Mais précisément, cette lutte contre l'hérésie est vue comme une hérésie par les orientaux.
Eh oui, ce qui est assez complexe. Anaïs Kien.
Oui, Marie-Hélène Blanchet, on a bien compris la dimension théologique très, très puissante de ces débats. Mais cette histoire schismatique, c'est aussi une histoire politique, c'est aussi une histoire d'influence, c'est aussi une histoire de territoire finalement, et de concurrence entre les différentes autorités des églises chrétiennes.
Oui, tout à fait. Alors justement, il faut revenir pour ça au IXe siècle, et encore une fois à l'époque de Photios, puisque les choses se nouent quand même beaucoup à ce moment-là. Il y a concurrence entre les églises d'Orient, entre le siège de Constantinople et le siège de Rome, pour la Bulgarie en particulier, pour la conversion des Slaves.
C'est ça, les missionnaires qui viennent de Rome, justement, pour pouvoir convertir les Slaves et qui n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques, en particulier sur le filioque.
Et justement, c'est à cet endroit-là en Moravie et Bulgarie ensuite, que s'affrontent les missionnaires latins et orthodoxes à propos justement de la validité de ce credo. À propos aussi des usages, puisqu'il faut pas limiter la querelle uniquement à la question du filioque, aux questions théologiques. Ce qui frappe le chrétien dans sa pratique ordinaire, c'est par exemple que les latins communient avec du pain azim, c'est-à-dire avec des hosties, du pain non levé, comme les juifs. Et par contre, les Byzantins, eux, communient avec du pain levé. Donc cette question des azimes, par exemple, est celle qui vient au premier plan au 9e, 10e siècle dans la querelle entre...
Pourtant, ça pourrait sembler n'être qu'un détail.
Ça pourrait sembler n'être qu'un détail, mais c'est toujours justifié théologiquement. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, premièrement, l'hostie, donc le pain non levé, est une pratique judaïque, et les juifs, c'est ceux par rapport auxquels on veut se différencier. Et deuxièmement, il y a toute une réflexion théologique pour dire que le levain, c'est le souffle de vie dans le pain, et que donc c'est un sacrifice vivant, c'est manger le corps du Christ vivant, tandis que l'hostie, c'est du pain mort, puisqu'il n'est pas levé. Ce genre de choses.
Et donc, il y a des justifications théologiques d'un côté, des justifications qui prennent appui sur des pratiques, d'une certaine façon, et tout cela envenime progressivement les rapports entre ces deux parties de l'Église, qui ne sont pas encore deux, vous nous avez bien expliqué, qui vont le devenir progressivement. Comment cela se met-il en place? Et est-ce que déjà à cette époque, certains, d'un côté comme de l'autre, du côté de l'Église latine et de l'Église byzantine, se disent on va vers une catastrophe, on va vers une séparation, on va vers quelque chose? Et est-ce qu'il y a un souci de la catastrophe qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a des émissaires qui s'échangent et qui tentent de réconcilier les points de vue avant que ça ne devienne trop grave, Marie-Hélène Blanchet?
Alors, je pense que ça n'est pas du tout pensé en termes de catastrophe, puisque l'idée de division de l'Église est presque impensable. L'unité de l'Église est un commandement absolu, le commandement paulinien dont parlait Frédéric tout à l'heure.
Et surtout, l'unité, c'est la première caractéristique qui figure pour caractériser justement l'Église dans le credo. L'Église est d'abord une. Mmh.
Et la division, elle s'installe petit à petit à cause de toutes ces manquements réciproques à l'orthopraxie, ce qu'on appelle l'orthopraxie, pour différencier les pratiques de l'orthodoxie sur le plan de la doctrine. Puisque pendant très longtemps, les théologiens s'axaient uniquement sur les questions doctrinales, mais on voit les chercheurs qui travaillent aujourd'hui mettent beaucoup l'accent sur les questions de pratique, justement.
Et on voit bien d'ailleurs, lorsqu'on regarde très rapidement ces histoires du schisme, même une histoire scolaire très 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 élémentaire, que toute la question va ensuite être de savoir qui doit porter la responsabilité de la fin de cette unité. Qui doit porter la responsabilité du schisme, Marie-Hélène Blanchet?
Alors justement, on voit apparaître un certain nombre de littérature polémique divisée en plusieurs genres. Et parmi ces différents genres, il y a des histoires du schisme, effectivement, exactement. Donc, des historiens byzantins, enfin historiens ou théologiens, polémistes, qui reprennent l'histoire, qui donnent justement une date rétrospective au schisme. Ce n'est jamais 1054, et ça n'est de toute façon jamais une date fixe. Mais en général, ils se réfèrent quand même à cette période du 10e, 11e siècle. Donc c'est quand même de façon plus globale et dans une histoire longue, on peut sans doute dater effectivement plutôt la prise de conscience en fait d'une séparation. Une séparation qui, il faut bien le dire, n'est qu'un schisme encore. C'est-à-dire que justement, un schisme peut être réduit, un schisme peut être résolu. C'est un conflit d'autorité entre deux églises, entre deux instances. Le problème, c'est que s'y ajoute cette question du filioque qui, elle, est conçue par les Byzantins comme une hérésie. C'est-à-dire que les Byzantins considèrent que l'Église latine et les chrétiens romains sont dans l'erreur majeure, l'erreur doctrinale, à cause du filioque qu'ils récitent dans le credo.
Et là, Frédéric Gabriel, on change de catégorie.
Oui, je crois que les catégories sont essentielles parce que précisément, quand on dit réduire le schisme, on entend la réduction du parti adverse. Mais précisément, tout le monde s'accorde pour condamner le schisme à l'époque. Mais les schismatiques, c'est toujours les autres. Donc il y a une désignation dans un face-à-face trompeur. Mais le plus important, c'est de noter que la situation est asymétrique. Parce que en réalité, c'est la papauté souvent qui est à l'origine des modalités de l'union. Et Qu'est-ce que c'est l'union pour l'Occident? C'est tout simplement revenir dans l'unité, l'unité qui est celle du gouvernement du pape. Mmh. Donc c'est la papauté qui décide.
Qui donne les règles.
Voilà, parce que c'est pour ça que la question de la primauté du pape est l'un des points très discutés à l'époque et pendant plusieurs siècles.
Michel Stavrou.
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est essentiel dans toutes ces questions, même la question du filioque, finalement ce qui justifie le filioque du point de vue romain à l'époque et à travers les siècles, c'est l'idée que le siège de Rome, autrement dit la primauté romaine, est justifiée par droit divin. C'est-à-dire c'est la relecture des paroles du Christ à Pierre, mm-hmm. dans l'évangile de Matthieu. Tu es Pierre et sur cette pierre je fonderai mon église. Mais bon, toutes ces questions de débat, d'hérésie, finalement, c'est la question du rôle de Rome. Rome se voit comme une instance tout à fait unique dans le concert des églises locales, parce qu'elle considère que Pierre a laissé sa succession en tant qu'apôtre mmh. à l'évêque de Rome, de manière tout à fait unique. Ça, c'est la lecture de l'Occident. Et cette lecture occidentale n'a jamais été reçue depuis les origines par les églises d'Orient.
Ah oui.
Ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est au nom de cette vision occidentale que Rome se permet de modifier, par exemple, le credo qui avait été défini par les conciles écuméniques. Or, cela n'est pas acceptable pour les églises d'Orient. En Orient, il y a plusieurs sièges apostoliques. En Occident, il n'y en a qu'un.
Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est cette tentative, d'une certaine façon, de prise de pouvoir par le pape, du pouvoir de l'ensemble sur l'ensemble de la chrétienté qui n'est pas admise du côté des églises orientales.
Qui n'a jamais été admise, parce que pendant un millénaire, il y a eu une communion entre les églises d'Orient et d'Occident, mais il n'y a jamais eu de juridiction directe, si vous voulez, d'organisation mmh. des églises d'Orient par le siège de Rome. Ça n'a jamais existé. C'est pour ça que lorsqu'on a, à partir du XIIIe siècle, ce langage de retour à Rome ou de reductio graecorum, hein, c'est un langage idéologique qui ne correspond pas en fait à autre chose que l'idée que autrefois il y eut un temps où les églises orientales étaient rattachées à Rome, mais ça ne correspond pas à la vérité historique.
Mmh, ouais.
Donc vous voyez, les églises se retrouvaient périodiquement pour des conciles, mais pour le jour, l'administration, c'était des églises indépendantes.
Marie-Hélène Blanchet.
Oui, à partir du moment où on commence à avoir vraiment conscience du schisme, et là on peut quand même donner une date, s'il y en a une qu'il fallait retenir à la place de 1054, ce serait 1089.
Donc on écrase 1054 définitivement.
Non, n'écrasons pas 1054. Mais ayons en tête 1089 parce que c'est une date où on organise à Constantinople, c'est l'empereur qui organise à Constantinople un synode, parce que le pape Urbain II a envoyé une lettre d'avènement. Et il sait qu'il n'est pas commémoré à Constantinople.
Ouais, c'est-à-dire que Alexis Comnène, il écrit à Alexis Comnène en disant « Pourquoi je ne suis pas commémoré ?»
Oui, parce que la tradition veut que le patriarche de Constantinople, quand il célèbre la liturgie à Sainte-Sophie, commémore le nom du patriarche de Rome. C'est ce qui est le signe, en fait, de la communion. Communion dont on a parlé depuis le début. C'est le signe tangible de la communion entre les églises. Et en 1089, le pape donc proteste en disant « Je sais que je ne suis pas commémoré. Pourquoi ?» Et dans ce synode à Constantinople, les ecclésiastiques byzantins soulignent qu'il y a des questions problématiques, des problèmes canoniques entre l'Orient et Rome. Ils n'expliquent pas lesquels, c'est dommage. On a ce texte-là, mais ils ne définissent pas ces problèmes.
Ils en prennent acte
et ils disent « Depuis ce moment-là, l'Église est séparée, divisée, il y a schisme ».
Voilà. Et avec l'idée que ce sont les latins qui sont schismatiques, en l'occurrence.
Bien sûr, de toute façon.
De leur point de vue, c'est cela. Hein.
C'est toujours réversible, c'est-à-dire du point de vue des byzantins, les latins sont schismatiques, et du point de vue, voire hérétiques, et du point de vue des latins, c'est le contraire.
Il faut peut-être aussi préciser qu'effectivement, la fonction impériale est une fonction particulière dans l'Empire byzantin. On l'a déjà dit hier à propos de la croisade de 1204, et que cette fonction est aussi une fonction religieuse, et qu'il est important aussi que de comprendre que si on met en cause la religion pratiquée dans l'espace byzantin, on met en cause d'une certaine façon celui qui est l'empereur et qui est à la tête de cet empire byzantin aussi, Frédéric Gabriel.
Oui, absolument. Et je crois qu'il faut, pour bien comprendre cette question de schisme, il faut voir que au début, quand la religion chrétienne s'institutionnalise, elle s'institutionnalise dans un seul et même empire, qui devient l'empire chrétien. Par la suite, l'empire se divise et du coup, la papauté romaine prend un peu le rôle d'un pôle impérial romain. Et c'est ce que de nombreux orientaux reprochent au pape de Rome, c'est en fait d'avoir pris un rôle justement d'empereur.
Temporel.
Un rôle temporel. Alors que du côté de Constantinople, il y a une symphonie, un accord entre le patriarche et l'empereur. Donc chacun agit dans son régime propre.
Par ailleurs, Frédéric Gabriel, il y a une telle fragilité dynastique des empereurs byzantins qui remettent en cause à chaque règne, finalement, la fragilité aussi de cette direction spirituelle de l'Empire byzantin.
Oui, mais je crois que ça ne remet pas du tout en cause l'ecclésiologie sur laquelle repose en fait l'organisation de cette Église.
Et c'est pourtant... en partie, comme ça, quand on va justifier cette croisade détournée de 1204, où les Latins, les Francs, vont prendre possession de Constantinople.
Oui, alors la question des croisades est aussi très liée à la reprise de possession des lieux saints. Donc je ne crois pas que ce soit forcément une attaque de la position impériale byzantine.
Marie-Hélène Blanchet.
Oui, sur la question de la fragilité des rivalités dynastiques, il y a aussi tout un usage à Byzance qui fait que l'usurpateur peut avoir une légitimité. Mais c'est exactement ce qu'a dit Frédéric, ce n'est pas la personne qui compte, c'est la fonction impériale. Et la fonction impériale est tellement ancrée, l'empereur est tellement vu comme représentant de Dieu sur Terre, et ce ne sont pas des mots, c'est vraiment l'idéologie impériale qui fonctionne ainsi. Et donc l'empereur...
Un représentant de Dieu sur Terre que l'on peut empoisonner, dont on peut se débarrasser.
Non, mais l'empereur meurt et l'empire continue. Et donc, l'empereur, celui qui exerce le pouvoir impérial, et qui est donc, tant qu'il l'exerce, c'est parce que c'est ça en fait, c'est tant qu'il l'exerce, il est le représentant de Dieu sur Terre, et il est donc à ce titre chef de l'Église aussi. En accord donc avec le patriarche. Mais le patriarche n'est pas un parallèle du pape. Hein. Le patriarche a à Byzance un rôle et un pouvoir infiniment moins important que ne l'a le pape en Occident.
Η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνου πάσα στάσαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Michel Savrou, est-ce que l'arrivée par irruption des chevaliers chrétiens avec la croisade, qui correspond peu ou prou à ce que nous a dit tout à l'heure Marie-Hélène Blanchet, c'est-à-dire la fin du XIe siècle, au moment où effectivement les uns et les autres s'aperçoivent qu'il y a vraiment un dissensus trop important peut-être pour pouvoir maintenir cette idée de l'union, est-ce que cette arrivée par irruption des chevaliers qui viennent au nom de la croix dans l'espace oriental de la Méditerranée et l'espace byzantin a quelque chose à voir, peut-être, ou change la donne, pourrait-on dire, dans le rapport que les deux églises entretiennent.
Alors évidemment, ça change la donne de façon radicale, parce que les chrétiens d'Orient, déjà, ne comprennent pas le concept de la croisade. Ils essayent, par tous les moyens, de maintenir un modus vivendi avec l'islam. Et donc, lorsqu'ils voient ces déferlements, ils sont tout à fait stupéfaits. Et puis ensuite, ils négocient avec ces croisés et ils arrivent finalement à, je dirais, une certaine unité. Mmh. Donc, par exemple, après la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés, eh bien, les croisés respectent la hiérarchie locale dans un premier temps, c'est-à-dire remettent en place le patriarche orthodoxe local de Jérusalem. C'est intéressant parce que ça montre que finalement aucune date n'est vraiment valable pour un schisme définitif. Donc vraiment, on peut pas se satisfaire d'aucune date. Le problème, c'est que progressivement, au bout de leur conquête, lors de la première et surtout de la deuxième croisade, en particulier des villes prises aux Turcs comme Antioche, eh bien, les croisés vont instaurer leur propre hiérarchie latine et chasser les évêques grecs. Donc, c'est, je dirais, un premier pas vers la désunion. Et puis, évidemment, le point d'orgue, c'est la quatrième croisade avec la destruction de Constantinople. Mmh. On chasse finalement de nombreux réfugiés vers l'extérieur de la ville. Et surtout, on installe un patriarche latin. Mmh. Qui est Thomas Morosini, qui est un Vénitien, qui bientôt va être consacré dans son rôle de patriarche par le pape Innocent III. Et alors là, je dirais que le schisme est consommé, parce que, implicitement, cela veut dire, du point de vue des orientaux, que l'authenticité de leur Église n'est pas reconnue. Ouais. Si on instaure une nouvelle Église, c'est que votre Église est considérée comme... comme déficiente. Voilà, donc je crois que c'est définitif à partir de 1204.
Anaïs Quien.
Oui, si on a parfois du mal à saisir les moments de rupture, Marie-Hélène Blanchet, on arrive quand même en tant qu'historien très bien à voir les moments où on tente de recréer cette union, de débattre sur les modalités qui pourraient permettre à toutes ces églises d'être de nouveau dans cette unité chrétienne.
C'est ça, donc c'est ça. Définitif, donc 1204, pas complètement, parce que même si il y a des accros effectivement à l'entente entre l'idée de fraternité chrétienne dans cette affaire de 1204, il y a tout de même, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et d'ailleurs encore ensuite, mais sous d'autres modalités, des tentatives de réunion des églises, qui s'appellent donc des tentatives d'union, où il y a rassemblement de conseillers, ambassades, etc., de part et d'autre, qui viennent discuter de l'idée du rétablissement de la communion, donc qui serait sanctionnée par, à nouveau, la commémoration réciproque des patriarches. Et ça prend la forme... à deux moments importants, d'un concile œcuménique, c'est-à-dire le concile de Lyon II en 1274 et le concile de Florence, de Ferrare-Florence, en 1439. Ce sont deux grandes tentatives d'union lors desquelles les Byzantins comme les Latins considèrent qu'il y a quand même moyen de discuter sur le fond, sur la doctrine et sur les usages pour arriver à revenir à cet idéal commun, pacifique, d'unité de l'Église.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi que ce sont les empereurs là aussi qui poussent un peu à la roue, et en particulier l'empereur Michel VIII Paléologue en 1274, parce que il voit bien aussi la difficulté d'être chrétien séparé d'autres chrétiens qui par ailleurs font la croisade dans son espace géographique, et qu'il y a toujours la possibilité donc pour lui d'être isolé vis-à-vis de la menace, en particulier des Ottomans, progressivement. Et il faut donc avoir des alliés, d'une certaine façon. Et donc, l'empereur tente de pousser à la réconciliation. Et ce sont souvent les dignitaires de l'Église ou le peuple lui-même qui refuse cette réconciliation. Lorsqu'on vient à Byzance avec un document qui dit « ça y est, on a cédé sur tel et tel point et on est d'accord sur tel et tel point », eh bien, la population n'en veut pas, en l'occurrence Marie-Hélène Blanchet.
Alors, à l'époque de l'Union de Lyon, oui, donc c'est très peu de temps après la reprise de Constantinople par Michel VIII, paléologue.
Il faut dire que c'était un peu compliqué. C'est vrai que les Latins étaient là, on reprend la ville.
On reprend la ville en 1261. Michel VIII est en butte à des dangers importants de la part des Angevins de Naples, donc de la part de Latins aussi. Et il cherche évidemment l'alliance avec la papauté à travers l'Union. Ça, c'est une grande constante. Les enjeux sont mixtes, sont mélangés. C'est-à-dire, il y a de véritables enjeux ecclésiologiques et doctrinaux dans ces affaires d'union et de réconciliation, mais il y a des enjeux politiques, bien sûr, tout à fait massifs. Et en ce qui concerne Michel VIII, effectivement, il a voulu l'union pour des raisons géopolitiques, disons, de façon très schématique, et cette union qu'il a conclue a suscité effectivement des réactions vives dans la population. On a beaucoup de mal à avoir une idée des masses, c'est-à-dire que il y a effectivement une réaction, un mouvement anti-unioniste qui se met en place. Le patriarche refuse de sanctionner l'union, donc il est remplacé par un autre patriarche, Bekkos, qui lui va l'entériner.
Mais on imagine la confusion aussi des croyants et à quel point ce type de débat qui change quand même régulièrement de termes peut déchirer une société et créer de la confusion aussi auprès des pratiquants, tout simplement.
Mais c'est justement ce qu'on a beaucoup de mal à évaluer, c'est-à-dire est-ce que la majorité de la population se sentait concernée par ces questions-là? Est-ce que le filioque était quelque chose qui vraiment tracassait le Byzantin moyen quand il allait à l'office et quand il voyait un latin? Est-ce qu'il se sentait vraiment étranger, voilà, différent et ayant une autre foi? Alors, à partir des textes, quand on a vraiment l'accusation d'hérésie, oui. C'est-à-dire, ceux qui considéraient les latins comme des hérétiques, ça veut dire qu'ils les considéraient comme vraiment damnés, inacceptables et dangereux. Des gens avec qui il ne fallait pas à qui il ne fallait pas se mêler.
Frédéric Gabriel.
Alors, Marie-Hélène Blanchet va nous parler sans doute du concile de Florence, mais précisément, il faut voir que, aussi bien du côté latin qu'oriental, quand il y a une tentative d'union comme ça qui, a priori, apparaît comme réussie, et Eugène IV prend justement le pouvoir en quelque sorte, et pour se créditer lui-même d'une union réussie à l'échelle de l'ensemble de la chrétienté, il faut bien voir que aussi bien en Orient qu'en Occident, des adversaires disent mais n'oublions pas que Eugène IV a été déposé par le Concile de Bâle. Donc on rejoue aussi le rôle, l'importance du Concile contre le pape de Rome qui fait jouer sa primauté.
Et les partis restent divisés.
Toujours.
Marie-Hélène Blanchet, donc on voit bien qu'il y a des émissaires qui sont envoyés, mais il faut certaines dizaines d'années, parfois presque des siècles, pour que, au bout du compte, on recrée un nouveau concile pour pouvoir justement s'entendre et refaire l'union. Et à chaque fois, effectivement, ça accroche toujours sur des points de doctrine qui ne sont pas admis par la totalité de la population ou la totalité des églises concernées.
Oui, justement, les ecclésiastiques sont dans leur rôle à refuser une union avec, sur une base doctrinale qui leur semble inacceptable. Mmh. C'est-à-dire que donc les représentants de l'Église byzantine, que ce soit à Lyon II, le patriarche n'était pas à Lyon II, les émissaires qui y étaient des émissaires de l'empereur. Mais ensuite, à Florence, en 1438-39, dans le grand concile de Ferrare-Florence,
On arrive à un accord,
Et on arrive à un accord en présence du patriarche. Il meurt à Florence, mais ça, c'est pas sa faute.
Il en meurt, d'ailleurs.
Et avec l'ensemble d'une délégation représentant les églises, alors l'église byzantine et les églises slaves, parce que à cette date-là, les églises slaves ont aussi une grande importance. Donc, l'union est signée, plus ou moins sous pression de l'empereur. Ça, c'est une question discutée par les historiens, mais enfin, l'empereur joue un rôle tout à fait majeur dans ces discussions. Donc, du point de vue des hiérarchies, chacun joue son jeu. Ensuite, la question est aussi celle de la population. Et donc, on a des témoignages aussi qui montrent que dans certaines régions, par exemple sous domination latine, la Crète, par exemple, sous domination vénitienne, il y a aussi encore à cette époque-là, pendant toute cette période, intercommunion localement parfois, c'est-à-dire que les Latins et les Grecs ne sont pas à couteau tiré localement partout. Il y a la même chose à Chypre, Donc on a à la fois des mouvements qui montrent l'hostilité entre unionistes, anti-unionistes, les anti-latins du côté des populations grecques, mais aussi parfois alliances, intermariage, une question très importante. Tout un tas d'éléments qui montrent que la cohabitation existe aussi.
Michel Stavrou.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est très important de souligner qu'il y a de facto une communion qui existe dans beaucoup de parties de l'espace méditerranéen. Et en même temps, je pense qu'il faut souligner que les églises d'Orient ne sont pas des églises aussi centralisées qu'à Rome. C'est ce qui explique que parfois, au niveau des patriarcats, on souligne la division d'avec les latins, alors que localement, on vit paisiblement avec ces mêmes latins.
On vit paisiblement ou au contraire, on se déchire. Au lendemain de ce concile de Florence, Marie-Hélène Blanchet, si l'on regarde ses effets, ne serait-ce qu'à Byzance, les unionistes et les anti-unionistes, puisque ces accords qui ont été apparemment acceptés par tous vont très vite être dénoncés par certains et pas du tout pas et défendus par d'autres. Mais cela va déchirer la société byzantine et on voit dans les sources de l'époque, dans les témoignages de l'époque, une population aussi un peu confuse à quel clergé se vouer pour être sûr de ne pas tomber dans les mains de l'hérésie sans le savoir.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que une fois que l'union est prononcée, les anti-unionistes cherchent à la remettre en cause. L'empereur ne la proclame pas, donc on est dans une période à partir de 1440, après la signature de l'Union de Florence, une période un peu intermédiaire où l'Église byzantine est censée être unie à Rome, mais sans que ça ait été officiellement proclamé. Et les anti-unionistes donc mettent tous leurs efforts pour essayer d'expliquer aux populations que maintenant, s'ils adhèrent à l'Église patriarcale, s'ils suivent le patriarcat, ils sont dans l'hérésie puisque ce patriarcat est en communion avec Rome, dont la doctrine est hérétique. Mais localement, encore une fois, sur le terrain, ces distinctions ne se voient pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé aux Byzantins de réciter le Filioque, par exemple.
Et pourquoi, justement, est-il difficile pour un historien, Frédéric Gabriel, d'entrer, justement, dans la profondeur sociale, pourrait-on dire, de ces querelles ecclésiologiques et de comprendre si on a, évidemment, des difficultés à savoir quelle est l'opinion publique, et y a-t-il même une opinion publique à Byzance à ce moment-là, mais de comprendre si ces débats font débat dans le cœur social de Byzance à ce moment-là, qui est quand même une immense cité.
Alors d'une part parce que les discours sont vraiment polarisés, comme on l'a vu avec ce que vient de dire Marie-Hélène Blanchet, c'est-à-dire que le fait même de parler de schisme contribue à précisément séparer la société, et le schisme c'est aussi non seulement l'expression d'un magistère ecclésial, mais c'est aussi un fait social. Mmh. C'est-à-dire que la simple énonciation du schisme, donc la désignation d'une entité coupable, fait que, précisément, socialement, la société est désignée comme une partie se séparant d'un tout. Et c'est évidemment ce tout qui serait légitime. Donc déjà, le fait de parler de schisme, c'est une construction, disons, partisane, dogmatique dans le mauvais sens du terme. Ce phénomène est un phénomène de longue durée parce que précisément, la papauté a toujours revendiqué ses accusations. Elle est à l'origine d'une désignation de l'autre.
Et sur cette profondeur sociale, pourrait-on dire, Marie-Hélène Blanchet, vous nous disiez tout à l'heure, on ne sait pas hein, si au bout du compte les gens y croient, s'ils n'y croient pas, si quand ils se rendent à l'église, ils sont persuadés de la doctrine du Filioque en 1439, au moment du concile de Ferrare-Florence, par exemple. Pourquoi a-t-on du mal à rentrer justement dans cette pratique quotidienne, pourrait-on dire, de la religion, qui nous montrerait justement comment réagissent à ces impositions ecclésiologiques et ces débats ecclésiologiques les gens de l'Empire byzantin?
Parce que nos sources sont très limitées, elles émanent des ecclésiastiques, elles émanent en grande partie des polémistes. Donc, à partir des sources, si on effectue constitue pas une critique très très serrée des textes. On peut avoir tendance à survaloriser justement ces aspects polémiques et de controverses. Et donc on a besoin aussi d'autres types de sources, comme des actes de la pratique, par exemple des choses dans lesquelles on croirait pas qu'on peut trouver des informations sur ces questions-là, mais des contrats de mariage, des choses comme ça, qui permettent de voir par contre justement l'autre aspect des choses. Mais ce qu'il faut souligner tout de même, c'est que cette fracture à l'intérieur du clergé byzantin entre unionistes et anti-unionistes n'aboutit pas à quelque chose comme une guerre de religion. Enfin, c'est quand même quelque chose qui aurait pu prendre des proportions de ce type-là. En fait, la question est réglée assez rapidement ensuite par la chute de Constantinople en 1453, mais l'union de Florence n'est dénoncée que en 1484 par un synode panorthodoxe à Constantinople, donc beaucoup plus tard. Et la majorité des unionistes, en fait, donc des orthodoxes unionistes qui voulaient rester fidèles à l'orthodoxie, mais admettaient l'idée de l'union avec Rome, ceux-là, en grande majorité, s'exilent en Occident après la chute de Constantinople.
Merci à tous les trois. Merci à Michel Stavrou, donc, qui était avec nous au téléphone. Merci à vous, Frédéric Gabriel, ainsi qu'à vous, Marie-Hélène Blanchet. Je rappelle que si on veut en savoir plus, justement, en particulier sur ces tentatives d'union, on peut lire Réduire le schisme, que vous avez co-dirigé. Vous êtes en préparation d'une autre publication, Frédéric Gabriel, qui ne va pas tarder.
Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de l'importance du credo et donc des professions de foi en général, et un deuxième volume dans la même optique, qui est intitulé « L'union à l'épreuve du formulaire, profession de foi entre Église d'Orient et d'Occident, toujours du XIIIe au XVIIIe siècle, et sous presse ».
Et donc ce sont tous les credos justement possibles et imaginables justement dans toute cette longue période, puisque vous allez jusqu'au XVIe, XVIIe siècle.
Jusqu'au XVIIIe siècle.
XVIIIe siècle. Merci à tous les trois, donc, et merci à vous, Anaïs Quin, qui avait préparé l'ensemble de cette semaine et qui l'avait réalisé, ainsi que le documentaire de mardi autour de la chute de Constantinople qu'on peut réécouter. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Valérie Lavalard était avec nous à la technique aujourd'hui et Véronique Savouinoff à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter l'ensemble de cette série sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger, donc, dans l'année qui suit cette diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages www.franceculture.fr ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, et nous suivre sur le réseau Twitter, ça s'appelle Fabrique FC.